Je vais tout de suite inviter à la tribune notre animatrice du premier atelier qui traitera des lieux et des publics, en la présence de Zoé Blumenfeld-Kyodo. Et puis je vais demander aussi aux intervenants de suivre. Juste pour vous dire, Zoé est directrice de la valorisation et du patrimoine de la ville de Dijon depuis 2018. Un grand parcours en histoire de l'art et en muséologie, notamment à l'école du Louvre, avec une spécialisation en médiation culturelle, puis une formation en ethnologie. Vous avez toutes les bios dans votre petit document qui a été remis en séance. Ceux qui ne l'auraient pas, il ne faut pas hésiter à aller le chercher. Aller le chercher à l'accueil. Je tenais quand même à dire, pour représenter Zoé, mais c'est valable pour d'autres intervenants et d'autres animateurs, pour nous, un gestionnaire de site inscrit au patrimoine mondial, vaste territoire comme le nôtre, c'est indispensable de travailler avec toutes les collectivités et avec l'interprofession membre. Et on a besoin de ces référents. Et Zoé est la référente pour la ville de Dijon et la métropole de Dijon pour la gestion, tout en dirigeant le musée des Beaux-Arts et l'ensemble des services culturels. Et c'est indispensable pour une bonne gestion, comme on l'a avec Laure Ménétrier ou comme on l'a avec pour Beaune ou avec l'interprofession viticole. Zoé, je t'invite à me rejoindre et merci encore pour ta participation au comité de pilotage et à tout ce travail.
Plus du tout pour la direction des musées. Il y a un directeur.
Maintenant, il y a un directeur des musées. Voilà.
Et David Liot et Thomas Charles.
Mais c'est voilà. Oui, David Liot. Tout à fait. Oui, exactement. Les intervenants, on va passer à la tribune et comme ça, je donne l'animation à Zoé avec la petite télécommande.
Bonjour à tous. Pour cette troisième table ronde, au moment où nous avons commencé à élaborer le programme de ce colloque, nous avons souhaité faire un pas de côté, j'allais dire retourner le miroir, et nous concentrer non plus sur les équipements, les cités, les musées, les centres d'interprétation, mais plutôt nous intéresser au public. Alors que l'offre culturelle en la matière s'enrichit, se diversifie, les deux projets majeurs locaux qui ont été évoqués hier en fin de journée en témoignent. Les membres du conseil scientifique du colloque ont souhaité s'attarder sur ce sujet et des questions, j'allais dire, tous azimuts ont commencé à fuser. Qui sont les visiteurs de ces équipements culturels? Est-ce qu'il y a une approche sociologique, typologique qu'on puisse esquisser à ce sujet? De manière un petit peu naïve ou simplificatrice, est-ce qu'on peut imaginer que ces visiteurs, est-ce qu'on peut dire que ces visiteurs sont avant tout des visiteurs de musées, d'équipements culturels? Ou avant tout sont dans le cadre d'une pratique touristique, œnotouristique. Quelles sont les modalités dans lesquelles s'effectuent ces visites? Est-ce qu'on est dans une visite plutôt individuelle, familiale, amicale? Quand je parle de public familial, on retouche du doigt l'une des questions qui a été abordée hier lors des échanges, c'est-à-dire la question du jeune public lorsque l'on parle de vigne et de vin. Est-ce qu'on est dans le cadre aussi de visites organisées? Et puis, dernier sujet qui nous intéressait, est-ce que les visiteurs sont sensibles à cette distinction qu'en tant que professionnels nous faisions entre des musées, des centres d'interprétation, et auquel cas, est-ce que des attentes spécifiques, des motivations spécifiques sont à l'origine de ces visites? En soulevant toutes ces questions, nous avions la conviction qu'approcher ces sujets-là nous permettrait de penser un peu plus précisément à la manière dont on peut concevoir des offres à destination de ces publics, de savoir comment on peut les toucher, les intéresser, leur faire comprendre cette culture de la vigne et du vin dont nous sommes tous pleinement convaincus qu'elle est centrale, ou en tout cas cruciale, dans ce qu'elle révèle de notre civilisation, du rapport de l'homme avec la nature, avec l'environnement, etc. À l'origine, pour évoquer ce sujet, nous avions pensez à trois intervenants dont l'expertise, l'expérience nous semblait particulièrement complémentaire. Il se trouve que Madame Catherine Artaud, qui devait être présente avec nous pour ces deux journées, n'a pas pu être là pour des raisons personnelles. Elle m'a prié de vous en excuser et nous a chargé de dire quelques mots qu'elle souhaitait tout de même partager avec vous ce matin. Je le ferai tout à l'heure. Je remercie très vivement Laure Ménétrier et Sophie Jolivet d'avoir accepté presque au pied levé de se joindre à nous pour l'échange de ce matin, de manière à partager des expériences complémentaires et des regards complémentaires à ceux que nous avions imaginés. Je vais vous présenter rapidement les quatre intervenants donc, de notre table ronde. Bertrand Gauvry, vous l'avez déjà rencontré hier, donc, et il s'est représenté ce matin, donc je vais passer très rapidement, juste pour redire donc, qu'il est effectivement depuis 2016 directeur de l'Association des climats du vignoble de Bourgogne. Ce matin, il nous présentera plus particulièrement le projet de la Maison des climats et la manière dont cet équipement a été conçu comme un équipement expérimental, voilà, qui permet de tester un certain nombre d'outils, de discours, d'interprétation pour faire comprendre le terme de climat. Également, Juliette Passebois, je vais reprendre mes notes sur ce sujet parce que je suis moins à l'aise avec la terminologie. Donc, Juliette Passebois est maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises de Bordeaux. Elle a une formation à la fois en sciences économiques, en sciences de la gestion et du management. Elle a consacré sa thèse de doctorat à l'analyse et à la compréhension des expériences esthétiques vécu par les visiteurs des musées d'art. Et en 2004, elle a donc intégré l'Institut d'administration des entreprises de Bordeaux et en étant rattachée à l'Institut de recherche en gestion des organisations avec une équipe particulièrement active dans le domaine du marketing stratégique et du marketing du vin. Si j'ai bien compris, ça a constitué un tournant aussi dans sa recherche où elle a commencé à s'intéresser plus spécifiquement à des établissements qui sont à la lisière entre équipements culturels, musées et équipements touristiques, au premier lieu desquels les centres d'interprétation ou les cités. Et puis, elle a orienté également sa recherche sur la question du marketing du vin. Et au croisement de ces deux sujets d'études, finalement, notre table ronde arrivait particulièrement bien. Elle pourra partager avec nous l'analyse qui est la sienne de ces publics, les éléments de connaissance qu'on peut avoir de manière globale sur ces publics. Laure Ménétrier, vous l'avez déjà, je pense pour la plupart d'entre vous, rencontrée hier, entendue hier lorsqu'elle a présenté, lors de la première table ronde, le travail et les parties pris muséographiques qui sont ceux du musée du vin de Beaune, donc l'un des trois établissements muséaux municipaux de Beaune qu'elle dirige depuis 2010. Ce matin, elle interviendra plus particulièrement sur la question des publics, voilà, la connaissance qu'on a des publics de ce musée et les actions qui sont mises en place en leur direction. Et puis Sophie Jolivet, du Jardin des sciences de Dijon, qui a une double formation, à la fois d'historienne, spécialiste de l'histoire du vêtement à la cour de Bourgogne, et en muséographie, qui a travaillé pendant 13 ans dans un des musées municipaux de la ville de Dijon, le musée d'ethnographie qu'on appelle le musée de la vie bourguignonne, sur des missions scientifiques à la fois de médiation et d'inventaire, et qui travaille maintenant depuis 2010 en tant que responsable du département des expositions au Jardin des sciences, tout en continuant une activité scientifique dans la vie universitaire en étant rattachée au laboratoire Arteis de l'Université de Bourgogne qui explorera ce matin avec nous les différentes expériences qui sont menées au sein du Jardin des sciences. On sera là aussi dans une autre typologie d'équipement par rapport à ce qu'on a pu évoquer hier en matière de valorisation de la vigne et du vin. Cette petite introduction étant faite, je vais juste... Excusez-moi, j'ai perdu le fil et je referai passer ces éléments-là sur nos différents intervenants. Voilà, vous montrer ce qui concerne Catherine Artaud. Alors, normalement, il y a un film. Voilà. Donc, un petit film qui avait été préparé donc, par Catherine Artaud pour présenter l'action de la Fondation Terroir Paysage. Catherine Artaud avait, je ne vais pas porter son discours, qui est extrêmement fin et profond, les quelques mots qu'elle avait voulu, en quelques mots, ce qu'elle voulait faire passer comme message ce matin avec nous, c'était le fait que les publics, bien sûr, étaient ceux auxquels on adressait nos actions, mais bien plus que ça, lorsqu'on parlait de terroir, finalement, les publics, c'est le terreau à partir duquel une action de médiation se construit, et que les enfants, notamment, puisque le petit film qu'elle avait préparé portait plus spécifiquement sur le jeune public, pouvaient participer dans ces conditions-là au processus de patrimonialisation et de compréhension de ce que c'est que le patrimoine mondial. Voilà. Je vous propose que nous rentrions dans le vif du sujet de la table ronde. On a imaginé ces échanges en trois temps. Un premier temps où on va d'abord essayer de dresser, j'allais dire, un portrait type, un portrait robot des publics de ces équipements culturels dédiés à la valorisation de la vigne et du vin. Voir si c'est possible d'ailleurs de dresser ce portrait, c'est pas si évident que ça. Une deuxième partie où nous nous intéresserons plus spécifiquement aux attentes, aux motivations, ce qu'on en sait des attentes et des motivations des visiteurs pour ces équipements, quelles sont leurs attentes à ce sujet-là, et puis la manière dont les différentes structures culturelles s'emparent des résultats de ces évaluations pour proposer des activités ou des dispositifs aussi appropriés que possible. Pour engager la première partie de nos échanges, je vais laisser la parole à Juliette Passebois du CROC. À ce sujet, donc, quels sont les éléments de connaissance générique, j'allais dire, que nous avons sur la fréquentation, les publics de ces équipements culturels.
Bonjour à tous, merci beaucoup Zoé, merci de cette introduction. Je profite de ce micro pour remercier aussi l'association de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de venir de nos positions d'universitaires pour échanger avec un public professionnel aussi varié, donc vraiment merci beaucoup, c'est très précieux pour moi. Et j'espère pouvoir contribuer à ce débat et apporter un regard peut-être complémentaire à celui des professionnels qui ont des tâches concrètes à réaliser avec la gestion de leur public. Moi, j'ai une position très privilégiée qui est celle de l'enseignant-chercheur qui va croiser des sources documentaires pour essayer de répondre à des questions. Et là, cette question que vous posez en introduction, qui est celle du portrait robot des centres d'interprétation, ben finalement, elle est très, très difficile à résoudre. Parce que si on regarde bien la littérature sur ces questions, on se rend compte qu'il n'y a pas d'études qui portent spécifiquement sur les publics des centres d'interprétation de la vigne et du vin et qui vont dresser un portrait robot de façon extrêmement claire sur quel est le profil type. Alors, peut-être qu'on aura des éléments de réponse avec les professionnels. Bon, je ne vais pas vous laisser sur cette déception, mais... On comprend que ça soit très difficile parce que les structures sont extrêmement variées. Il est difficile d'imaginer que le portrait robot sera le même pour un équipement comme le hameau qu'on a vu hier ou la cité du vin ou encore la maison des climats. Ce sont des structures qui sont très différentes, qui accueillent forcément des publics qui sont différents. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avoir un profil type. Et puis également, il y a beaucoup d'offres qui vont créer des profils différents. Donc forcément, selon la manière dont on va présenter les choses, on va attirer un public différent. Alors moi, pour essayer de répondre à cette question, j'ai cherché des éléments dans ce qui pouvait être publié ou rendu public. Et en fait, je vous propose en fait d'essayer de dresser ce portrait robot en croisant différentes informations. Premièrement, aller chercher des informations sur le public qui fréquente des grandes institutions. Et là, j'ai la Cité du Vin a gentiment répondu à ma sollicitation de leur fréquentation. Donc, je peux m'appuyer sur quelques cas et sur quelques données, et puis on va les enrichir sans doute ensemble. On peut aussi s'appuyer sur les nombreuses études qui existent sur le profil de l'œnotouriste, hein, même si c'est une définition qui est peut-être très restrictive, comme on l'a dit hier, et qui est sans doute à redéfinir. Il y a quand même déjà des informations, on connaît à peu près le portrait robot de l'œnotouriste. Et puis également, il y a pas mal d'études qui nous permettent de connaître le portrait robot d'un visiteur de sites culturels. Pas forcément de musées, mais de sites culturels et de sites patrimoniaux. Et en croisant ces trois types d'informations, on peut avoir quelques éléments assez stables sur le portrait robot d'un équipement. Voilà, donc c'est à prendre avec précaution, mais globalement, c'est ce que j'ai essayé d'avoir comme démarche. Et en fait, quand on croise ces différents types d'informations, Moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'on peut avoir à peu près des informations sur leur origine géographique. Et on peut penser que la personne qui va pousser les portes d'un centre d'interprétation, c'est plutôt une personne qui est dans une situation de touriste plutôt que de résident. Donc on a plutôt un public qui est là pour un jour ou plus, plutôt qu'un public résident qui habite dans la commune et qui va venir fréquenter cette institution. La Cité du Vin à Bordeaux, c'est 84% des visiteurs qui sont des visiteurs touristes. Touristes, ça veut dire aussi des excursionnistes hein, qui sont là pour la journée, par exemple. Donc finalement, les résidents ne font pas partie du gros du public. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on avait aussi au musée de Beaune, ce que vous avez dit hier. Moi, j'ai noté que vous aviez 50% d'étrangers, donc on se doute que ce sont des touristes. Et sur les 50% de Français, il y a sans doute une grosse partie qui sont aussi des touristes. Donc ça, c'est un élément qui apparaît. Et puis, pareil, les sites patrimoniaux sont des sites qui sont majoritairement visités par des personnes qui sont en vacances, en situation touristique. Donc on peut s'attendre à ça. Après, est-ce que le public est international ou français ? Bon, ben ça, c'est une question qui va dépendre des structures. Mais c'est vrai que le no-touriste est plutôt une clientèle internationale. Donc on peut s'attendre à ce que le public de ces centres, touristes, de ces centres d'interprétation de la vigne et du vin soit plutôt un public touristique et international. Et à la Cité du Vin, on a à peu près, je crois, 47% de visiteurs en 2019, mais ça évolue beaucoup d'année en année, qui sont plutôt étrangers, internationaux, avec des nationalités très très variées, vous l'avez dit hier aussi. Mais on retrouve quand même deux nationalités assez fréquemment, ce sont les Belges et les Britanniques. Donc ça, c'est à peu près sur leur origine géographique. Après, on peut avoir des éléments peut-être convergents au niveau de l'âge de ces populations. Et on se rend compte que c'est plutôt un public adulte. Les jeunes très jeunes, hein, moins de 23 ans, donc très très jeunes, ne représentent pas une partie importante de ces centres d'interprétation. 7% à la Cité du Vin sont des personnes qui ont moins de 23 ans. Et le gros des visiteurs, c'est des visiteurs de 40 ans et plus. Donc 40 ans reste un âge tout à fait jeune, mais plutôt plus jeune que 23 ans. Donc voilà, c'est un public plutôt... vous êtes d'accord ? Plutôt âgé, entre guillemets, bien entendu, sachant que le public des sites culturels est aussi un public plutôt âgé, pareil, plus de 40 ans, mais qui se rajeunit énormément d'année en année. Donc on a souvent la vision d'un touriste qui va visiter des sites patrimoniaux qui est vieux, mais c'est de moins en moins vrai, donc il ne faut pas tomber là-dedans. Une autre question qui était aussi intéressante, qui apparaissait beaucoup hier sur les débats, c'était de savoir si on avait affaire à un public qui était passionné par le vin et qui était un œnophile, c'est le terme qui a été utilisé hier. Sophie Lyon d'Armaillac nous en parlait hier, et il apparaîtrait aussi que finalement, ce n'est pas un public d'œnophiles qui fréquente les centres d'interprétation dédiés au vin. On a vraiment un grand public qui fréquente ce genre d'institution. Et d'un autre côté, quand on regarde les statistiques sur l'intérêt des Français pour le vin, on se rend compte que les Français sont globalement très intéressés par le vin. Plus de la moitié des Français se disent très intéressés par la question du vin et ont envie d'en savoir plus. Donc bah, forcément, on a un public qui est un large public. Ce n'est pas un public de professionnels. Il y a bien sûr des amateurs éclairés, mais ils font partie d'une toute petite partie de ce visitorat. À la Cité du Vin, les professionnels, donc c'est quand même une partie particulière. De mémoire, c'est 4 à 5 % des visiteurs, donc c'est très peu. Et c'est ce qu'on retrouve aussi. Et après, sur la structure des publics, ce qui est peut-être intéressant aussi à rajouter, vous me direz si vous avez les mêmes choses chez vous, c'est peut-être aussi sur la question des pratiques culturelles. Est-ce que ce sont des gens qui visitent juste un centre d'interprétation ou est-ce que ce sont des gens qui inscrivent le centre d'interprétation dans un ensemble de pratiques culturelles. Et là, les études sont assez convergentes aussi, et il semblerait que le visitorat soit un visitorat assez familier de la culture, et qui finalement inscrit la visite du centre d'interprétation dans un ensemble de pratiques. Et donc finalement, la question que vous posiez, savoir si c'était plutôt un visiteur de musée ou plutôt un visiteur de site lié au vin, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que il va visiter et un centre d'interprétation de la vigne et du vin, et un site patrimonial, et un musée. Donc en fait, ce sont vraiment des profils un peu particuliers, qui sont les profils familiers de la culture. Donc ça, c'est les statistiques du ministère de la Culture qui montrent ça depuis des années. Et en dépit de toutes les politiques de démocratisation culturelle, on arrive toujours à la même chose. C'est-à-dire plutôt un public éduqué, avec du bac plus 3 et plus, plutôt un public cadre ou CSP+. voilà, et familier, qui a donc de nombreuses pratiques. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on peut quand même, à mon avis, tabler sur ce portrait robot de visiteurs. Après, il y a plein d'autres questions qui seraient intéressantes et qui sont sans doute peut-être des questions que vous vous posez dans vos établissements. Savoir si ce sont des publics qui planifient leur visite ou qui sont là par hasard. Bon, ça, c'est une question sur laquelle je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse, si ce n'est que toutes les statistiques sur le no-tourisme montrent qu'une grosse partie des no-touristes sont quand même des gens qui vont franchir les portes des caves, etc. Pas des centres d'interprétation, mais des caves, de façon très au hasard, en fait, d'une visite. Ce n'est pas forcément planifié. Donc ça serait des éléments sans doute à voir pour ces centres d'interprétation. Est-ce que ça s'inscrit là ou pas? Et puis après, sans doute beaucoup d'autres questions sur le type de groupe. Est-ce que ce sont des familles? Est-ce que ce sont des individuels? Là, je n'ai pas trouvé d'éléments qui sont convergents et ça dépend sans doute vraiment de la nature de la proposition qui va être faite. Donc voilà pour essayer de répondre à la question vraiment du profil sur une approche assez généraliste. Peut-être après, ça peut être intéressant de confronter avec les professionnels. C'est ce que vous attendez.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je sais pas.
Merci beaucoup, Juliette. Effectivement, ça permet de poser un cadre global avec des éléments qu'on va sans doute retrouver à travers les interventions des trois autres intervenants. Et puis avec, évidemment, des nuances, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. On a des typologies d'équipements très différents et donc des approches et des publics qui diffèrent eux aussi. Il se trouve que les trois intervenants, en plus de Juliette Passepois-Ducrot, sont tous dans des équipements qui ont mené au cours des derniers mois, aux dernières années, des études de public, des évaluations. Donc ils peuvent vraiment s'appuyer sur des études et leurs résultats à ces fins pour pouvoir intervenir ce matin. Laure, je te passe la parole.
Oui, bonjour à tous. Donc, merci Zoé, merci Juliette. Alors moi, si je voulais aller très très vite sur mon intervention, je pourrais dire qu'en fait, Juliette, tu as parfaitement résumé le profil type du visiteur du musée du vin de Bourgogne. Parce qu'alors, vraiment, nous, on est dans un cas pratique qui reflète parfaitement ce que tu viens d'exprimer. Mais alors, je vais quand même vous donner un petit peu plus d'informations sur les publics du musée du vin de Bourgogne. Donc, je me base à la fois sur nos données statistiques, quantitatives, toutes les informations qu'on relève à l'accueil billetterie du musée du vin. Et on se base également sur une enquête qu'on a mise en place cette année, mais je vous en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure quand on parlera des attentes et des motivations des publics du musée du vin. On a mené une enquête auprès de nos publics pour savoir un peu mieux comment ils appréhendaient ce musée, les transformations muséographiques et d'autres données. Alors donc ce public, donc en effet on est sur un public très touristique, un public international. Pour l'année 2018 très précisément, on est à 46% de Français, donc 54% d'étrangers. Et sur les Français, j'ai pas les données là, j'ai pas eu le temps de les récupérer, mais on a vraiment très très peu de public local, donc des résidents, la population bonnoise, et très peu du département. Dans notre au quotidien, vraiment, ils sont très très peu présents. Beaucoup d'individuels, et en effet plutôt un public des personnes en couple essentiellement, pas un public familial. Encore une fois, au quotidien, les familles sont très très peu présentes. Alors je vous redonne aussi, je vous ai peut-être pas redonné le chiffre, on est au musée du vin sur 9 mois d'ouverture, ce qu'on ferme en période hivernale, on est à 25 000 visiteurs, de personnes qui viennent visiter le parcours des collections. On est une entrée payante, on est à 5,80 € pour visiter les deux musées municipaux, parce que c'est un billet couplé, donc pour visiter les deux musées municipaux, Musée des Beaux-Arts et Musée du vin de Bourgogne. Donc 25 000 visiteurs, on ne comptabilise pas les personnes qui visitent la cuverie de l'hôtel des Ducs, où on a une partie de nos collections néanmoins, parce qu'on a nos pressoirs. Là, vu que c'est un accès libre, on ne les comptabilise pas, et là ça serait beaucoup plus, parce qu'on a notamment toutes les visites guidées des guides de l'office de tourisme qui sont vraiment très 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 nombreuses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça correspond parfaitement. Et la grande différence en termes de public, c'est quand on organise des animations dans notre programmation culturelle, notamment lors des grandes journées culturelles nationales, type journée du patrimoine, Nuit des musées, ou également sur notre programmation, par exemple, des mois des climats, où là, alors là, ça s'inverse totalement. Là, on a un public très, très familial, beaucoup d'enfants, beaucoup de résidents, beaucoup de personnes de... à la fois de l'agglomération bonnoise, du département, de la région, qui découvre, redécouvre le site. Voilà, donc là, ça s'inverse totalement. Et pas que pour la raison que... Parce que bon, sur les journées européennes du patrimoine et nuit des musées, c'est gratuit. Donc il y a peut-être ça aussi qui explique que les résidents, à ce moment-là, se disent, tiens, pourquoi pas faire un tour dans le musée de notre ville. Mais on a également, nous, dans notre programmation culturelle, des animations qui sont payantes. Et c'est vrai qu'à voilà, à ce moment-là, on est plus sur du public local. Voilà, pour dresser un petit portrait robot, et je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure.
Merci beaucoup, Laure. Je vais passer la parole, du coup, à Bertrand Gauvry pour la Maison des Climats à ce sujet-là.
Merci. Alors la Maison des Climats, certains la verront, visiteront, je pense, cet après-midi. D'ailleurs, pensez à vous inscrire si ça n'a pas été fait, et pour les autres lieux. La Maison des Climats a eu sa création dans un contexte assez particulier, puisque c'était issu de 9 ans de candidature à l'inscription au patrimoine mondial. Et quand il y a eu l'inscription, en 2015, on s'est dit, mais c'est quand même important d'avoir... recueilli pendant ces 9 ans, faire travailler 33 chercheurs, tout un panel de partenaires à réfléchir sur du contenu et à faire émerger toute cette histoire, tout ce patrimoine, voilà, et de ne pas le transmettre au public. Et donc c'est une des missions que nous demande l'UNESCO, bien évidemment. Il y avait des projets, évidemment, en cours, qu'ils sont toujours, puisqu'ils ont été présentés hier, Cité internationale de la gastronomie et du vin, et le réseau de Cité des vins et des climats de Bourgogne. Et moi, j'avais la chance d'avoir déjà mis en place 5 maisons de site dans un autre territoire. Et voilà, cette idée est venue de se dire, mais n'attendons pas ces cités. Le terme de climat est relativement complexe. Je vais quand même le rappeler, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas d'ici, qui n'ont pas lu tous les panneaux. Mais le climat, c'est une parcelle viticole qui a été délimitée, nommée précisément et patiemment pendant des siècles. Ces parcelles, on leur donne un nom. Et comme on vinifie, on vendange et on vinifie séparément, la bouteille de vin qui est produite a le même nom que la parcelle d'origine. Donc c'est de la traçabilité, on sait exactement le nom, et ceux qui étaient hier soir ou ce que vous avez bu hier midi ou ce midi, vous pourrez regarder le nom sur les bouteilles, vous avez le nom de la parcelle, vous savez exactement puisqu'il n'y a pas d'assemblage. Pour les visiteurs évidemment, et pour le grand public, le climat, c'est la météo, surtout maintenant avec le changement climatique. Et on s'est dit, on ne va pas attendre la Cité des Vins pour voir si les visiteurs comprennent ce concept, comprennent ce que c'est que ce terme, qui n'est pas récent, voilà, qui est viticole, et comprennent aussi pourquoi ce territoire, ce modèle de viticulture est inscrit au patrimoine mondial. Donc il y avait une double vocation, comprendre les climats et leur inscription au patrimoine mondial. Deuxièmement, tester, comme l'a dit Zoé, expérimenter des outils de médiation, des propos, des discours, pour voir si les gens le percevaient correctement. Donc tout un local a été trouvé, petit, hein, c'est 170 mètres carrés, donc c'est tout petit, ça se veut expérimental. Ça a été mis en œuvre très rapidement, grâce à nos maîtres d'œuvre, Stéphanie Bouet-Perret, qui était dans la salle, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, et Marion Golmar, avec une grande maquette qui permet de bien identifier le territoire, une partie sur l'historique, une partie sur la toponymie. Voilà, donc c'était important d'expérimenter ça. Ce qui ressort... c'est qu'on a volontairement mis ce lieu ouvert gratuitement au public, libre d'accès, ouvert 7 jours sur 7, 2 jours de fermeture dans l'année, juste le 25 décembre et le 1er janvier, tout simplement parce qu'il est rattaché à l'office de tourisme de Beaune qui a ces horaires-là. Et pour nous, c'est une chance extraordinaire. Deuxième point, ouverture gratuite, libre d'accès. Voilà, on peut rentrer dans la pièce en passant par l'office, même sans se faire connaître. Ça, vous verrez, ça a des contraintes derrière. Et ce qui veut dire que les gens ne venaient pas spécialement, puisqu'il n'y a eu aucune communication sur cette Maison des Climats. Et c'est vraiment, les gens arrivent par opportunité, ils trouvent ce lieu par hasard, par curiosité, et ils l'intègrent à un programme de visite qu'ils avaient déjà planifié. 78% de nos visiteurs ne savaient pas qu'il y avait forcément la Maison des Climats, ils n'avaient pas du tout l'intention de venir la visiter, du coup, 78%. On a quand même 18 à 20 000 visiteurs par an, on devient dans les top 5 des sites no-touristiques de Bourgogne. Dans les chiffres, nous, on a fait une évaluation assez importante parce que c'était expérimental, qu'on a été soutenu financièrement par nos membres et par l'Europe et par la région, et qu'on avait dit, on fera une évaluation plus importante que pour un lieu de 170 mètres carrés. Donc on a fait travailler Gaël Le Saffre qui travaille sur d'autres musées. C'était une surévaluation parce qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça pour un site, mais ça nous tire des enseignements importants. Ce qui nous a permis de voir par rapport à la question du public, 65% des visiteurs ont plus de 50 ans. Nous également, 70% des visiteurs viennent de France. Alors là, par contre, c'est une interrogation. L'office de tourisme accueille plus de 50% d'étrangers dans le même bâtiment. Ça veut dire que prendre une porte à côté pour aller faire un acte, découvrir un mobilier, quelque chose qui est pourtant attractif, voilà, on perd des étrangers. Est-ce que c'est une explication ? Je ne sais pas. Enfin, on est en train d'y réfléchir. Et on sait, comme je vous l'ai dit, que les visiteurs n'avaient aucune connaissance des climats. Pour la majorité, c'était quand même du grand public. Ils avaient entendu parler de la notoriété des vins également, de Beaune avec les hospices et ces éléments incontournables. Par contre, le climat, la parcelle de vigne s'appelle un climat, non, ça, ils ne l'avaient pas du tout. Le public aussi plutôt âgé, assez curieux. Novices, et n'hésitons pas à dire qu'ils sont novices dans nos évaluations, avec, comme je vous le disais, aucune attente particulière. Donc ce qui est assez particulier, vous le verrez ensuite quand on va un peu plus dans le détail de cette évaluation. Et pour finir, ce lieu, il est de plus en plus utilisé de façon différente à sa conception. Là, il était vraiment grand public, avec des messages simples, de l'interprétation, français, anglais. Et puis on se rend compte de plus en plus que certains guides l'utilisent comme point de départ de visite de la ville, parce que cette grande carte permet aussi de matérialiser, de s'implanter, de s'immerger dans les climats inscrits au patrimoine mondial. Donc les guides l'utilisent. On est de plus en plus sollicité, et de plus en plus, notamment ces derniers mois, on ne sait pas pourquoi, mais pour des vocations pédagogiques et de formation, sensibilisation, les gens veulent le faire dans la maison des climats. Le lieu n'est pas adapté, rien que pour couper le son, c'est compliqué. Enfin bon, donc on a reçu de nombreux groupes, là, une quinzaine de groupes ces derniers temps, des étudiants, des collégiens, des formations supérieures, tous les techniciens de l'INAO. Enfin, il y a une vraie demande de venir dans ce lieu-là. Donc un public qui n'était pas forcément prévu et qui nous pose quelques soucis. Voilà. Mais on reviendra plus en détail dans les attentes et dans ce que ça génère derrière.
Merci beaucoup Bertrand. Et je passe la parole maintenant à Sophie Jolivet pour encore une autre typologie d'équipement avec le Jardin des Sciences.
Merci de cette invitation. Alors, c'est vrai qu'on va s'inscrire un petit peu en contre-pied de tous ces chiffres au Jardin des Sciences. Donc, le Jardin des Sciences de Dijon, c'est une structure originale de connaissances autour de la biodiversité. Sauvage et cultivé, il regroupe trois entités, un planétarium, un muséum d'histoire naturelle et un jardin botanique. Alors, la petite particularité de notre établissement, c'est qu'il est situé au cœur d'un parc public, qui est le parc de l'Arquebuse. Donc c'est un parc urbain de 5 hectares qui est labellisé éco-jardin. Et donc, c'est donc un parc public avec des usagers de parcs publics de villas qui viennent profiter des pelouses, des jeux d'enfants, etc. Donc, on a fait une enquête de fréquentation directement dans le parc de l'Arquebuse en 2017. Et il est passé, entre le 15 mai et le 3 septembre, 137 151 personnes exactement, donc dans le parc de l'Arquebuse, qui représente grosso modo à peu près 400 000 personnes qui fréquentent donc le parc. Et c'est une fréquentation équivalente à une rue commerciale secondaire. Alors environ une personne sur quatre, c'est-à-dire à peu près 110 000 personnes annuellement, fréquentent les expositions permanentes, temporaires, le planétarium et les événements proposés par le Jardin des Sciences. Le comptage réalisé dans le parc est en partie corrélé aux jours d'ouverture et aux événements du Jardin des Sciences. Ça veut dire qu'on a beaucoup moins de personnes qui fréquentent le parc le mardi, jour où notre établissement est fermé au public. Et donc parmi les muséums nationaux, hein, le Jardin des Sciences bénéficie d'une plutôt bonne fréquentation. Il se situe dans les 6% des muséums qui ont une fréquentation supérieure à 100 000, entre 100 000 et 150 000 personnes. Alors, les visiteurs du Jardin des Sciences, ce sont surtout des familles, au sens large, hein, c'est-à-dire des enfants et des adultes qui visitent ensemble l'établissement. Ça représente 70% de nos visiteurs, et 90% des visiteurs viennent toujours accompagnés. surtout des locaux. Alors, voilà, c'est la grosse différence. Nous, on accueille surtout des locaux. C'est 70% de nos visiteurs sont des habitants de la métropole. Et parmi ces 70%, 80% sont dijonnais. On accueille 14% de Français au sens large, donc hors région, et 3% d'internationaux. Donc voilà, on est vraiment, nous, à l'opposé des chiffres que vous avez cités, mais du coup, c'est intéressant de s'intéresser à cet établissement aussi. Nous avons un public relativement jeune. 90% de nos visiteurs ont moins de 50 ans. Donc voilà, on accueille plutôt nous des jeunes, avec des catégories socio-professionnelles qui sont très larges et une part plus importante d'ouvriers dans nos chiffres. Ce sont des fidèles, plus de 50% fréquentent le Jardin des Sciences au moins une fois par an. Donc voilà, on a un public vraiment fidèle qui revient en fait d'un événement à l'autre et d'une exposition temporaire à l'autre. Et sur l'ensemble, les scolaires représentent 25 à 30%. Donc voilà, c'est pas énorme finalement. Dans ces chiffres, les scolaires ne sont pas notre public le plus important. Donc du coup, des visiteurs habitants du territoire. Et d'ailleurs, nous, on préfère les appeler les habitants. Et on travaille plus pour les habitants. Puisque le rôle du Jardin des Sciences s'inscrit dans une sensibilisation des habitants à la biodiversité sur l'ensemble du territoire. Alors, la vigne, on travaille davantage sur la vigne que sur le vin. C'est considéré au Jardin des Sciences comme un aspect parmi d'autres de la biodiversité sauvage et cultivée. Elle est abordée de manière permanente dans le jardin botanique avec deux plates-bandes actuellement. Une plate-bande sur la diversité des cépages de Bourgogne et une plate-bande sur la diversité des pinots, avec un discours scientifique assez poussé sur justement les principes de la diversité des pinots, élaboré avec l'aide à l'époque de M. Bessis. Au premier étage du planétarium, on évoque les aspects plutôt géologiques de la côte des vins. Et puis, on met en place régulièrement des expositions de plein air, donc sous forme de panneaux, et qui sont réalisées avec des chercheurs de l'université, et notamment en collaboration avec la chaire UNESCO Culture et Tradition du Vin, et qui font le point donc, sur des thématiques variées en lien avec la vigne et le vin. Donc, on en a une sur le phylloxéra, qui s'appelle « Peur sur la vigne ». On en a une sur les cépages bourguignons, sur la vigne et la ville, et sur les changements climatiques. Et puis, on est en train d'en préparer une, là, sur le vin et la santé. Alors, c'est ce qui fait aussi notre intérêt et vraiment ce sur quoi on insiste, nous, au Jardin des Sciences, c'est que les données présentées sont travaillées en lien avec des scientifiques. Ce sont des données de la recherche proposées à un public de non-connaisseurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. On travaille avec les scientifiques et notre rôle est plus un média en fait, entre les données scientifiques, les données issues de la recherche et le public de non-connaisseurs. Alors, on a une évolution prochaine. Je me permets d'en parler avant d'étudier les deux points suivants. C'est que, idéalement situé entre la gare SNCF et la Cité internationale et la gastronomie, dans la dynamique donc de l'ouverture prochaine de la Cité de la gastronomie et du vin, le Jardin des Sciences proposera bientôt, donc à partir de 2021, un nouveau parcours végétal qui va s'appeler le Jardin des saveurs et des cépages, des orgidines à deux mains. Voilà, on va proposer de mettre un petit peu de botanique dans les assiettes à travers notamment un parcours empélographique de découverte des différents cépages et qui va contribuer, nous l'espérons, à apporter aussi une vision complémentaire. Il s'agit vraiment d'être complémentaire de la Cité de la gastronomie. Et donc, on peut s'attendre prochainement à une évolution des visiteurs du jardin botanique et notamment une augmentation de la part des visiteurs étrangers dans le parc de l'Arquebise.
Merci beaucoup Sophie. Donc on voit bien, voilà, au-delà du portrait global qui avait été dressé par Juliette, à quel point finalement la typologie d'équipement, qu'on soit dans un musée, dans un centre d'interprétation, dans un muséum d'histoire naturelle, voilà, l'incidence que ça a sur la typologie de public. Ce sera intéressant maintenant qu'on voit relativement brièvement peut-être les attentes, les motivations telles qu'on les connaît. Le temps file et je voudrais être certaine qu'on puisse aussi aborder la manière dont les différents équipements s'en emparent. Je passe à nouveau la parole à Juliette.
Très bien, merci. Ça m'interroge quand même ces diversités de fréquentation et on peut même se demander s'il n'y a pas une irréconciliabilité, je ne sais pas si on pourrait dire ça, entre les publics touristiques et les publics résidents finalement. On a du mal à concilier dans un même équipement. Alors les attentes, c'est aussi une question qui est très complexe, parce que si on parle d'attente, on parle d'un visiteur qui a déjà planifié sa visite. Or, on a vu que ce n'était pas forcément le cas. Donc déjà, ça nécessite d'être sûr de ça. Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui a anticipé, qui a eu des motivations, qui a mis en balance des motivations avec des freins et qui a décidé de pousser la porte à un moment donné? Donc si on part du postulat que ça existe et qu'on a ce visiteur-là qui réfléchit, qui planifie, on peut effectivement essayer de comprendre un petit peu quelles sont ses motivations et ses attentes. L'idée de la motivation, c'est ce qui va vous pousser à franchir la porte. Et puis, ces motivations sont très importantes parce qu'elles vont forger les attentes qu'on a finalement du lieu et donc derrière la satisfaction. Parce que la satisfaction, ce sera juste une comparaison entre ce que j'attendais et ce que j'ai eu. Donc c'est très important, à mon avis, de bien comprendre ce qui pousse les visiteurs à rentrer dans ces lieux-là. Alors sur ces questions-là, on peut aller chercher pas mal d'informations. Parce qu'on a une grosse littérature sur les motivations des visiteurs de musées. Et finalement, en ce qui concerne les centres d'interprétation, c'est une littérature qui marche très très bien, parce que le visiteur lui-même n'a aucune idée de ce qu'est un centre d'interprétation. Le visiteur qui pousse la porte de la Cité du Vin, vous le disiez hier, Laurence, il pousse la porte d'un musée. Alors ça a son importance parce que finalement, ça veut dire que tout son cadre de référence, tout ce qu'il a en tête quand il pousse cette porte, c'est le musée. Donc ça veut dire qu'en fait, il a les mêmes motivations, il a les mêmes attentes, il a les mêmes attendus, et il va comparer en fait l'offre qu'on va lui proposer par rapport à celle qu'il a dans la tête, à son référent musée. Et même les notions qui sont finalement sous-jacentes à tout ce qu'on a dit là aussi, qui est une notion importante dans ma discipline, qui est celle du prix et de la perception du prix, ça change tout. C'est-à-dire que le prix de la visite va être souvent apprécié en rapport avec ce qu'on a l'habitude de voir dans un musée et pas dans un centre d'interprétation. La gratuité va être aussi très importante dans la qualification des motivations et des attentes. On n'attend pas la même chose pour une visite dont on a payé 18 euros, 15 euros, 20 euros, ou quand on est rentré gratuitement. Donc tout ça, c'est finalement assez complexe aussi. La question des motivations, elle est complexe. Mais si on essaie de résumer, finalement, on se rend compte qu'il y a quatre grandes motivations dans les visiteurs de musées, et il faut les garder en tête. La toute première, quand quelqu'un pousse la porte d'un musée, c'est prioritairement parce qu'il veut apprendre quelque chose. Et ça reste extrêmement vrai dans tous les centres d'interprétation. C'est pas pour ça, c'est dans un temps de loisir, mais c'est pas pour passer un temps de divertissement. C'est avant tout pour acquérir des connaissances, pour comprendre et pour transmettre à ses enfants, à sa famille, à ceux avec qui on est. Donc la compréhension et la découverte, c'est central. Et ça veut dire derrière que la principale attente du public, c'est une attente de contenu. Et ils sont extrêmement sévères avec les équipements qui n'ont pas des contenus qui sont à la hauteur de ce qu'ils attendent. Et encore une fois, ils attendent des contenus muséaux. C'est ça qu'ils viennent chercher, apprendre, comprendre et aller en profondeur des choses. Alors moi, j'ai mené une petite étude sur la Cité du Vin. Alors, ils aiment les contenus, mais pas trop non plus, parce que la Cité du Vin offre énormément de contenus, une très grande richesse, mais ça a parfois même tendance à les déstabiliser parce qu'il y en a trop et ils ne savent pas par où commencer. La deuxième chose qu'ils vont chercher dans cet apprentissage, c'est apprendre d'une certaine façon, c'est apprendre de façon divertissante. Alors, on utilise beaucoup le terme d'edutainment ou la conciliation des deux, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ils ne cherchent pas à se distraire et à s'amuser. Ils cherchent juste à apprendre, mais d'une autre façon, d'une façon distrayante. Et là aussi, dans l'étude que j'ai menée avec ma collègue, on se rend compte que au-delà de l'apprendre en s'amusant, ce qui devient de plus en plus important pour eux et dans leurs attentes, c'est d'apprendre en faisant, en fait, en mettant les mains dans quelque chose, et le learning by doing est plus important que le j'apprends en m'amusant. Donc l'amusement, la dimension fun, elle apparaît uniquement parce qu'elle est un support de l'apprentissage, mais c'est absolument pas une finalité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer dans toutes les études que j'ai faites. Après, il y a une autre motivation qui est très importante dans les centres d'interprétation de la vigne et du vin, c'est que le client, l'individu, le public, il s'attend à quelque chose de sensoriel. Il veut vivre une expérience sensorielle, il veut toucher, il veut goûter, il veut sentir. Ça, c'est hyper important. Et donc, il y a des attentes autour de ça qui sont très, très fortes, qui vont se traduire aussi pour le no-tourisme. Mais cette dimension sensorielle, esthétique, elle est très importante. Et après, il y a une autre motivation importante, parce que j'ai mis finalement l'évasion la dimension fun et la dimension apprentissage ensemble. L'autre élément qui apparaît comme très important, c'est que quand on franchit la porte d'un établissement, ce qui va nous motiver avant tout, c'est la capacité de cet équipement à nous faire oublier tout le reste. Ce qu'on appelle souvent l'évasion, s'échapper de la vie quotidienne. Donc ça, c'est très important, c'est une sorte de parenthèse, ça s'inscrit dans un temps de loisir, c'est une parenthèse où on va essayer d'oublier tout le reste. Alors ça veut dire que d'un côté, les établissements culturels, ils font énormément d'efforts pour scénariser cette parenthèse-là et rendre les choses extraordinaires et pour faciliter ce spectacle. Donc ça, c'est important, donc il y a une attente qui est de cette nature-là. Mais aussi, ça veut dire tout simplement que l'individu, quand il est dans un établissement type centre d'interprétation, en fait, il ne veut pas être embêté par tout un tas de choses. Et donc, il veut être guidé de façon extrêmement simple. Et donc, il veut qu'on lui dise exactement où il faut qu'il aille. Il ne veut pas choisir tout seul, finalement. Donc, c'est très important pour lui de laisser à la porte toutes les problématiques qu'il a dans la vie quotidienne, à quelle heure je rentre, à quelle heure je sors, par où je passe. Ça, il a envie d'oublier, il a envie juste d'être là et de profiter du moment, en fait. Et ça, c'est un élément important. Alors, puisqu'on est un peu pressé, je reviendrai peut-être sur d'autres choses, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, chaque individu va faire un mix de ces éléments-là et va attendre plus ou moins de choses, et ça va donner naissance, finalement, à des grands portraits de visiteurs qu'on peut vraiment classifier. Peut-être pas en termes de catégories socio-professionnelles, etc., comme on l'a fait tout à l'heure, mais ce qui va être plus pertinent, c'est d'avoir une sorte de typologie des publics en fonction de leur motivation et en fonction de leurs attendus. Et là, forcément, on a des typologies de publics qui sont très, très différentes entre ceux qui recherchent avant tout la connaissance et l'apprentissage, ceux qui vont rechercher davantage l'évasion, etc., sachant que finalement, il y a des mix et qu'au final, ils vont retenir que certaines choses de l'expérience qu'ils ont vécue. Et là, ça peut être assez décevant pour les gens qui s'occupent de ces centres culturels, c'est que finalement, a posteriori, ce qui est retenu vraiment de l'expérience, les éléments mémorables, ils sont rarement en lien avec le cœur de l'activité et souvent avec des éléments extrêmement périphériques, comme le restaurant, par exemple. À la Cité du Vin, on voit qu'un des éléments mémorables, c'est la dégustation au dernier étage. Alors que finalement, il y a énormément de contenu, c'est pour ça qu'ils sont venus, c'est pour ça qu'ils ont poussé la porte, c'est pour ça qu'ils ont payé. Mais la seule chose, une des choses principales dont ils se souviennent, c'est ça. Donc il y a une sorte aussi de paradoxe entre des motivations au départ qui sont très culturelles et très éducatives, et puis les traces qu'on va garder en mémoire a posteriori, qui vont être extrêmement superficielles et souvent sur des éléments très périphériques à l'offre, notamment la dégustation, notamment l'architecture d'un bâtiment, etc. Donc il y a sans doute des équilibres à trouver aussi après chez les professionnels. Mais je donne la parole, c'est mieux. Peut-être
vers... Oui, pour compléter, c'est exactement ça. Nous, je vous le rappelle, je l'ai dit, il n'y avait pas d'attente particulière en venant sur la Maison des Climats. Il y a juste les relais d'information des offices de tourisme, on est vignobles et découvertes, mais il n'y a pas de publicité dans des ouvrages et autres. Et néanmoins, l'évaluation a montré que sans aucune attente, mais sans aucune, les gens ne savaient même pas que ça existait, que c'était là, 97% des personnes qui ont été enquêtées, donc grâce à tout un dispositif d'enquête, grâce notamment à nos bénévoles, 90% étaient satisfaits, voire très satisfaits de la visite. Et pour quelqu'un qui a fait l'évaluation, comme Gaël Le Saff, nous dit, mais c'est assez extraordinaire. Quelqu'un qui n'a pas d'attente, souvent, il dit, oui, c'était bien. Et là, il ressort en disant, non, j'étais très satisfait, satisfait. Donc, l'équipement leur a plu. 94% pensent que les informations étaient plutôt claires, plutôt simples. Voilà. On reviendra ensuite. Ce n'est pas le cas pour la compréhension. Quand on leur pose après, est-ce qu'ils ont compris ce que c'était un climat ? Alors là, on retombe au fond. Donc ça, c'est des grosses questions, et je le redis régulièrement, je vois Olivier là-bas sur le projet de cité, attention. On avait complété également, on peut peut-être mettre les visuels, on a la maquette et la fiche, les fiches en bois qui parlent des attributs du bien. On a remarqué dans l'évaluation que c'est ce qui marchait le mieux, encore avant même. C'est ça, c'est les petits dispositifs en bois, ils nous disent l'interactivité géniale. Quand on sort les petites fiches en bois, là, fiches de salle, c'est très bien. Ah, mais nous, l'interactivité, on peut passer à la suivante. On avait mis tout un dispositif en place avec du numérique, 10 tablettes qui sont à disposition, gratuites, sur une table, avec de la réalité augmentée, alors qui servira pour d'autres outils. Hein. La réalité augmentée, une médiathèque numérique où on avait mis plus d'informations à l'intérieur, qui est accessible aussi directement sur notre site internet. Mais on se rend compte que seulement 48%, même pas la moitié, utilisent ces tablettes qui sont à disposition. Et puis on se rend compte qu'ils s'en servent très très peu. Ils survolent et ils regardent un peu les noms des climats et puis c'est terminé. Les enfants, eux, par contre, sont malins, ils trouvent assez facilement les films, ils m'étonnent à chaque fois, mais pas plus que ça, ils ne les utilisent pas. Et comme vous le disiez, l'attention n'est pas forcément portée sur le contenu des messages qui sont relativement simples, mais nous, par exemple, le retour, notamment les points négatifs, nous, c'est ce qui nous intéressait dans une expérience en commun. Ben, ils n'étaient pas sur le contenu et tout ça, c'était ben, les sièges, c'est pas très confortable en bois, voilà, la luminosité, elle est un peu faible, enfin, sur des choses qui, nous on pensait voilà, faire une évaluation vraiment sur le contenu, on pourra y revenir rapidement là-dessus, c'est sur des choses là comme ça que voilà, qui, disons, souhaitaient porter l'attention. Et puis évidemment, nous, on parle des climats et on ne parle pas de vin, parce qu'on parle paysage culturel, climat, et on va à la fin, puisqu'ils viennent à Beaune pour aussi déguster du vin, ils nous disent, mais il n'y a pas de dégustation. Et ça, c'est un manque dans le parcours, mais ce n'était pas notre mission, à nous, gestionnaires d'un site inscrit au patrimoine mondial.
Oui, encore une manière de voir à quel point, finalement, les attentes sont paradoxales et complexes, du coup. Laure, je te repasse la parole.
Merci, alors je vais faire très synthétique. Puisque je pense que le temps nous manque un peu, et puis également pour la bonne raison que ça va totalement confirmer ce que vous venez de dire, tous les deux. Donc au Musée du Vin, j'ai voulu affiner la connaissance des attentes et des motivations de nos publics. Hein. Donc j'ai souhaité mettre en place un petit questionnaire qui est distribué à certains moments précis de l'année par une médiatrice culturelle auprès de nos visiteurs pour mieux comprendre leurs attentes et les raisons qui les ont aussi poussées à pousser la porte du musée. Et donc je vous livre quelques résultats de ce questionnaire qu'on a mis en place donc, cette année, hein, 2019. Quelques informations d'ordre plutôt qualitatif plutôt que quantitatif, ce que je vous avais présenté dans un premier point. Qu'est-ce qu'il en ressort ? C'est que donc, nos visiteurs ils viennent en effet pour comprendre. Voilà, comprendre la Bourgogne viticole, les vins, les appellations, l'histoire de ce modèle de viticulture. C'est ce qui ressort en premier. Les manques et leurs regrets à la fin de la visite du musée, c'est qu'en effet, ils souhaiteraient en fin de visite qu'il puisse y avoir un moment de dégustation. Ça, c'est un ressort à tous les coups. Ils aimeraient qu'on aborde plus l'avis des viticulteurs de la filière vitivinicole aujourd'hui, et notamment tous les enjeux hein, des régions viticoles et de la Bourgogne viticole, les enjeux contemporains. Et puis peut-être aussi par rapport à la fabrication du vin, ils ont envie de comprendre hein, les savoir-faire, culture de la vigne, fabrication du vin, élaboration du vin, peut-être comprendre ça de manière plus interactive et ludique. Ça, c'est ce qui ressort. Et qu'est-ce qu'ils ont aimé et apprécié dans la visite ? Donc ça rejoint exactement ce que vous avez dit. Le sensoriel, donc notre espace des arômes sur les vins rouges, les vins blancs, ça c'est vraiment un moment très très fort de la visite. Mais il y a également des parties plus qui concernent plus les collections. Un grand moment de la visite, c'est la visite de la cuverie. Hein, donc c'est vous le verrez peut-être si vous êtes inscrit à la visite aux îles cet après-midi. Hein, ce lieu impressionne énormément avec une impressionnante collection de pressoirs. Et puis également, ce qu'ils aiment beaucoup, alors la maquette, donc ça fonctionne en effet très très bien, hein, les maquettes hein, pour se représenter un territoire. On a une maquette de la côte de Beaune. Tablette numérique avec le contenu hein, de la médiathèque des climats du vignoble de Bourgogne qui a été installée en 2019. Les visiteurs passent complètement à côté. Hein, ça, la tablette numérique, ça retient pas leur attention. Et puis alors peut-être aussi un des best-of du musée. Et alors ça, moi, je trouve ça merveilleux et je voulais bien sûr finir avec ça. C'est un film, un tout petit mot, je fais très vite Zoé. Un film qui date de 1942, c'est un court-métrage de Georges Rouquier, qui est un très grand monsieur du cinéma documentaire. Un film sur le tonnelier, les savoir-faire, toutes les étapes de fabrication d'un tonnelier. Donc c'est en noir et blanc, il y a une voix off, mais avec le son de l'époque. Et ben ça, je peux vous dire que c'est un incontournable pour notre public international, sachant que la voix off, c'est uniquement en français. On vendait le DVD pendant très longtemps, s'il y a eu rupture de stock maintenant, hein, mais on vendait le DVD, c'était une de nos meilleures ventes dans la boutique. Donc voilà, on revient vraiment à ce qu'on disait, c'est la volonté de comprendre en fait, comprendre ce qu'il y a derrière, les savoir-faire, toutes les étapes de fabrication. Donc cette vidéo du tonnelier ressort à chaque fois dans ce que les visiteurs ont le plus apprécié. Et je finis juste, avant de céder la parole à Sophie, deux choses. Je pense qu'il y aura aussi peut-être quelque chose d'intéressant à étudier à terme, c'est l'interaction entre la Maison des Climats, enfin, les usages et les pratiques des visiteurs à Beaune entre Maison des Climats et Musée du Vin de Bourgogne. Savoir s'ils font les deux, par quoi ils commencent, ça pourrait être intéressant. Et puis juste au sujet des expos du Jardin des Sciences et Muséum de Dijon, dire que c'est aussi des expos itinérantes, puisque vous avez la très bonne idée de les partager et de les diffuser, puisqu'au Musée du Vin, nous avons accueilli certaines de vos expos, et que ça, c'est aussi un vrai plus que vous proposez.
Merci, Laure. Je continue du coup. Nous, on a fait une enquête dans le cadre de l'évolution du jardin botanique en Jardin des Saveurs et des Cépages, une enquête cet été, enfin au printemps, entre avril et juin 2019. On s'est aperçu donc que 57% des personnes interrogées fréquentent les carrés botaniques, donc au sein du parc, hein, il y a au moins 57% des gens qui fréquentent vraiment les carrés botaniques, donc qui se rendent, qui déambulent dans les carrés botaniques, et 84% des personnes interrogées consultent les contenus scientifiques proposés. Donc on est aussi sur des gens curieux. Des gens qui ont envie de découvrir des contenus que l'on peut leur proposer. Ça les incite à observer les spécimens et les panneaux présents, hein, pour satisfaire cette curiosité. Et ce sont aussi plutôt des gens qui viennent picorer au gré de leur balade, mais pas forcément à chaque visite. Ils le font aussi dans un cadre d'agrément, et ils n'ont pas forcément tout le temps envie de s'intéresser au contenu scientifique. Mais en tout cas, il y a une vraie attente en termes de vulgarisation botanique, en tout cas qu'on a pu identifier. Et seuls 16% des interrogés ne s'intéressent pas du tout au contenu présent. Donc là, c'était une enquête qui portait sur les usagers du parc. Donc qui ne sont pas forcément les visiteurs du Jardin des Sciences. Des attentes également en termes de confort, au niveau des bancs, des services qu'on peut proposer, et puis surtout de l'esthétique. C'est vraiment très important, hein, qu'il soit dans un lieu beau, et on le ressent aussi au niveau des expositions temporaires qu'on peut proposer en intérieur. En général, les gens, enfin, ce qu'ils retiennent, outre le fait que ça les a intéressés, c'est que ce soit beau. Donc il y a un réel intérêt pour l'idée du jardin des saveurs et des cépages. 63% des répondants disent qu'ils viendront visiter, et 34% peut-être, donc on a de l'espoir. beaucoup ont des idées sur les contenus qu'ils aimeraient trouver dans une telle thématique, des plantes aromatiques, des fleurs, des fleurs dans l'alimentation, alors très peu la vigne, hein, voilà. Donc il va falloir qu'on les intéresse à cette thématique. Et par contre, sur la pertinence d'un accompagnement numérique des contenus, hein, qu'on a interrogé, 77% ont un smartphone, et 20% des interrogés disent qu'ils utiliseraient à coup sûr cet outil si jamais c'était proposé. Par contre, 32% des répondants ne disent surtout pas. Ils disent surtout, on est là pour toucher, on est là pour observer le réel, et on n'a surtout pas envie là de numérique dans un jardin botanique. Donc voilà, c'est quand même instructif de s'interroger sur ces choses-là. Et on vient rechercher essentiellement à 80%, le numérique apporterait des informations sur les plantes, déjà en premier lieu. Voilà.
Merci beaucoup. Du coup, afin de laisser un petit peu de temps aux échanges avec la salle, ce que je vous propose, c'est que nous nous centrions plus sur la question du jeune public. Voilà, une fois qu'on a dressé ce panorama un peu global des publics, de leurs attentes éventuelles et multiples, voyons maintenant comment les équipements s'en emparent. Je te laisse la parole, Bertrand.
Nous, sur la Maison des Climats, c'est vrai qu'elle n'avait pas été conçue pour le jeune public, même si dans les propos, l'idée, c'était de commencer à 7 ans. Ce qui a un peu dérouté ceux qui ont travaillé sur la candidature, de se dire on va commencer à parler à des gens de 7 ans. Puis, en fin de compte, on se rend compte qu'en interprétation, et notamment la barrière de la langue, fait que même si on parle français, anglais, on n'a pas la même facilité. Et que voilà, si les textes sont lisibles pour un français à 7 ans, ils seront facilement compréhensibles. Mais néanmoins, ça ne suffisait pas. Et pour aller plus loin... On a rapidement travaillé sur un petit livret de découverte de l'espace, alors qui fonctionne très très bien sur le principe, qui permet avec des énigmes de répondre à plusieurs énigmes qu'on trouve assez facilement sur la tablette ou sur les panneaux, et qui arrive à une énigme finale. Et on a mis en place un poster géant qui traite de 50 scènes de la vie viticole et du patrimoine local qui gagne à l'office de tourisme. Sur le principe, ça marche très très bien, et on se rend compte que c'est pas les enfants, ils embarquent les parents avec, et qu'ils le font. Mais on se rend compte surtout que, toujours dans le même concept, pas d'attente, pas de parcours programmé, donc on y consacre que 10 à 30 minutes. Et on se rend compte que la majorité des enfants et de la famille n'ont pas le temps de finir le parcours et de finir les enquêtes. Il y a juste 13 questions. Et donc voilà. Et donc là encore, un autre exemple où on sait que l'outil fonctionne bien et que la perception est bonne, qu'on reprend ces éléments. On a eu la chance de faire un travail avec une école avec 120 sixièmes là il y a quelques semaines. On a refait un questionnaire spécifique avec moins de questions à partir de ça. Ça marche très très bien. Mais là encore, voilà, un outil qui parce qu'on n'a pas de programmation ne va pas jusqu'au bout. Donc ça nous questionne énormément, et encore pour les citer, sur les outils à mettre en place et comment tout de suite leur proposer un parcours où ils auront un petit peu de temps et ils peuvent répondre. L'idée du cadeau, ça marche aussi quand même très très bien, et c'est quand même une bonne idée de repartir avec quelque chose de pédagogique derrière. Donc voilà pour parler du jeune public, parce que tout le reste, évidemment, ça demande des perfectionnements. On travaille sur d'autres outils, les explorateurs pour les enfants, notamment on a développé une application du coup en complément avec le BIVB qui est depuis septembre dans toutes les écoles, disponible pour tous les enseignements, qui permet d'aller jusqu'à la vigne, jusqu'à la découverte d'un vigneron. Et puis après, on a d'autres outils qui ne sont pas forcément jeunes publics, mais grands publics, le stand interactif ou des motion design qui serviront aussi pour les enfants qui sont en préparation pour les professionnels du tourisme. Donc voilà, notre exemple, nous, du petit livret, très bon écho, mais voilà, encore une limite par rapport au comportement et aux attentes des visiteurs sur place.
Merci beaucoup.
Merci. Alors rapidement également, malgré le fait que les enfants ne fassent pas partie de notre public majoritaire, hein, on a néanmoins souhaité mettre en place différents dispositifs pour les accompagner durant leur découverte des collections du musée du vin de Bourgogne. Donc on a un certain nombre d'outils qui permettent en fait aux familles, notamment aux parents, de pouvoir suivre la visite avec leurs enfants. On n'a pas cloisonné pour proposer un espace pour le jeune public qui serait différencié du parcours général des collections. Donc voilà, on a différents outils qui sont très classiques, hein, un parcours quiz avec des questions qui s'adressent à la fois aux adultes et aux jeunes publics, ce qui permet d'apprendre en s'amusant et en famille. L'espace des arômes, bien sûr, plaît beaucoup aux familles. Et puis on met également à disposition un livret avec différents niveaux pour apprendre à voir un objet, à analyser un objet. Et qui est basé surtout sur des choses plutôt ludiques, de mots fléchés, de rébus, de charades, enfin de choses relativement classiques. Hein. Et puis alors après, on a deux grands volets concernant le jeune public. On va voir tout ce qui concerne le public scolaire, parce qu'on reçoit énormément de classes, hein, maternelle, primaire, collège, lycée, post-bac. Donc avec un discours et des propositions adaptées à ces différents niveaux scolaires. Et l'idée étant de se fonder sur nos collections pour aborder les différentes disciplines et domaines de la connaissance qui sont dans les programmes scolaires. Hein, donc c'est classique, hein, l'histoire de la Bourgogne, la géologie, la géographie, les mythes, tout ce qui concerne bien sûr le patrimoine naturel, la faune, la flore, la biologie. Et donc là, il y a une vraie demande des enseignants. Donc on leur met à disposition un livret pédagogique pour les enseignants, un livret qu'on remet à chaque enfant à la fin de la visite. Ils sont là, hein, les livrets, si vous voulez les voir. Et puis alors après, on va avoir d'autres actions tournées vers plus le ludique pour tout ce qui va être tout ce qui va être en temps extrascolaire. Et donc on propose des animations et des ateliers pendant les vacances. Ça fonctionne très très bien. Je pense que ça soulage aussi certains parents ou grands-parents de se dire que pendant 2 heures, ils peuvent inscrire leurs enfants au musée du vin de Bourgogne. Et donc là, on est tourné plus vers le ludique et le créatif, beaucoup de loisirs créatifs qui font appel à l'imagination, à la créativité. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'aura pas forcément le temps. Peut-être. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi sur le sensoriel. On propose un atelier autour des 5 sens. Voilà, l'idée étant évidemment d'éveiller la curiosité des enfants, de donner le goût aux enfants de visiter un musée, de goût à la pratique artistique, culturelle. Et, alors, je ne vais peut-être pas en parler tout de suite, mais je sais qu'il y avait eu hier une question sur tout ce débat sur comment parler d'un produit alcoolisé, hein, à un jeune public, parce qu'évidemment, il y a toutes ces thématiques historiques, géographiques, biologiques, hein, mais il y a aussi un produit qui est le vin. Il y avait une question hier d'une personne qui travaille à Ficofi. Moi, je ne vais pas rentrer trop dans ce débat-là, parce que je ne travaille pas pour vin et société. Je pense que la directrice en parlerait beaucoup mieux que moi, mais quand on voit le film de Catherine Artaud, quand on voit tout ce qui est fait pour éveiller la curiosité, l'imagination, la créativité des enfants, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ce débat qui, vous savez, qui est de certains acteurs de la santé publique, qui est de dire que derrière ce discours, il y aurait en fait une volonté de faire de ces enfants les futurs consommateurs de vin et donc de banaliser la consommation du vin. Il y a un vrai débat autour de ça et de comment les interprofessions essaieraient en fait de faire du lobbying derrière ça. Moi, quand je vois le film, je n'ai même pas envie de parler de ça. Enfin, je veux dire, on voit très bien qu'on n'est pas du tout sur ces arguments-là, qu'il y a tellement il y a toute une richesse, de notre patrimoine culturel, naturel. Il y a tellement de choses à faire comprendre à travers nos collections et à travers ces paysages, à travers ce patrimoine. Pour moi, on n'est pas du tout là-dessus. J'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que le film, ces images, de voir ces enfants créer, découvrir, regarder, pour moi, on est sur autre chose. Voilà. Mais...
Au Jardin des Sciences, la manière dont on a envie d'articuler notre proposition, c'est d'abord en assumant ce que l'on est, c'est-à-dire un acteur du territoire qui agit en faveur de la biodiversité auprès des habitants et dans un cadre plus global à l'échelle de la métropole. Ça, c'est vraiment important pour nous que nos visiteurs sachent en arrivant qui ils viennent voir. Et voilà, dans un esprit de partage de la connaissance et donc d'acquisition de connaissances en lien avec des unités de recherche présentes sur le territoire. On fait notamment des analyses de sol sur les sols viticoles actuellement qui seront restitués donc à un moment donné dans nos espaces d'exposition. Rôle d'expert conseil aussi, non seulement auprès des aménageurs publics ou privés, mais aussi au niveau auprès des jardiniers, et une sensibilisation générale des habitants, donc en diffusant des connaissances scientifiques à travers les expos, à travers le parcours en pélographique, et en encourageant à l'action. Ça, je crois que c'est une des particularités du projet Dijonais, c'est d'inclure en fait systématiquement le citoyen dans ses actions et donc du coup d'être avec, de chercher à être toujours avec le citoyen dans ses actions, et notamment ça passe par exemple à travers les vendanges citoyennes qui sont proposées tous les ans. Nous souhaitons proposer bien sûr des contenus qui s'articulent avec tout ce que vous avez pu dire, hein, autour de l'imaginaire, autour du ludique, autour du sensible, autour de l'esthétique, avec plusieurs niveaux de lecture, hein, sous différents médias. Je pense que là, c'est ce qui fait aussi la particularité, c'est qu'on s'adresse à des familles, hein, au sens large, hein, et il faut que chacun, petit et grand, puisse accéder aux connaissances dont il a envie, à son niveau et avec son niveau de connaissance. Et il s'agit effectivement surtout pas de cloisonner les gens, mais justement d'accepter que qu'on visite en famille. Alors, effectivement, accepter que quand on propose un contenu un petit peu plus pointu, ben, y a un adulte à côté qui peut aider l'enfant à comprendre et vice-versa. Donc, des données de la recherche issues, donc, qui sont mises à disposition de tous à travers une approche plutôt accessible, mais surtout pas simpliste. Des parcours non linéaires, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter sur un cépage et ne pas envie de découvrir le suivant. Voilà. Une approche par grande thématique plutôt que un parcours à suivre obligatoirement. Une signalétique efficace avec très visuel, des textes courts, et puis des compléments sous forme numérique, donc qui sont que des compléments et accessibles via le Wi-Fi avec son outil personnel. Il n'y a pas besoin d'un outil supplémentaire pour accéder à l'information. Et puis surtout l'aspect esthétique du jardin qui nous paraît vraiment aussi important. On est un endroit convivial et on veut rester un endroit convivial. Et une présence physique des médiateurs et des acteurs de la biodiversité régulièrement, donc en dialogue direct avec nos visiteurs. Voilà.
Merci beaucoup. Avant de vous passer la parole, je voulais juste remercier les quatre intervenants pour la qualité de leurs interventions sur cette question qui est finalement complexe. Bertrand utilisait hier le terme de passeur à plusieurs reprises et je trouve que c'était passionnant effectivement tout d'un coup de voir notre rôle de passeur depuis le prisme des visiteurs plutôt que de suivre nos propres équipements et de la manière dont on les gère. J'espère que ça vous aura intéressé également.